Chapitre 21. Octobre-décembre 1974. Jocelyne regardait son programme préféré à la télévision, une émission qui existait depuis déjà plusieurs années et qui avait poussé l'humour dans des retranchements jamais vus auparavant. Le Monty Python Flying Circus la faisait rire, parfois aux éclats, parfois sourire, et l'outrait quelquefois, mais elle y revenait toujours, passant l'éponge sur les facéties les plus graveleuses de Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam. La BBC diffusait leurs sketchs tous les mois depuis la fin 1969, depuis qu'ils avaient acheté une télévision avec Martin. Il était 18h45 et elle entendit Martin qui rentrait. « Chérie, tu as entendu les informations ?» Jocelyne se bidonnait en regardant Graham Chapman déguisé en super-héros, perruqué et en collant bariolé, qui était nommé Mr. Neutron et arborait un gros N sur le torse. « Non, qu'est-ce qui se passe ?»« Nous avons deux nouveaux prix Nobel de Cambridge !»« Ils ont dit leur nom ?» demanda Jocelyne à son mari. Oui, mais j'ai oublié, c'est le prix Nobel de physique, une histoire d'ondes radio. Tu ne te souviens pas de plus de détails? Non, désolé, ils en parleront certainement aux news de 19h. Le journal de 19h était juste après les Monty Python. Jocelyn était pressée de savoir de qui il pouvait bien s'agir. Sur l'écran, on aperçut enfin le pied de Cupidon, puis le globe terrestre en rotation qui indiquait le générique des informations apparues. Elle monta le son au moment où Martine la rejoignait dans le salon. La science britannique est à nouveau à l'honneur cette année. Le comité Nobel vient de décerner le prix Nobel de physique aux professeurs Martin Ryle et Anthony Ewish, tous les deux de l'Université de Cambridge, pour leurs recherches pionnières en astrophysique des ondes radio. Le professeur Ryle pour ses observations et ses inventions, en particulier la technique de la synthèse d'ouverture, et le professeur Ewish pour son rôle décisif dans la découverte des pulsars. Jocelyne resta silencieuse. « C'est les pulsars ? Tes pulsars ?» dit Martine. « Bien joué, Tony !» murmura Jocelyne qui ne riait plus. Anthony Ewish s'avança vers le pupitre d'un pas souple. Les académiciens suédois le regardaient en silence. Il s'éclaircit la voix, puis prit la parole. « Messieurs les académiciens, je suis extrêmement honoré de faire ici devant vous ce cours sur le sujet pour lequel vous m'avez honoré de la plus haute distinction. » Ewish chaussa ses lunettes, puis baissa les yeux vers sa feuille. « La piste qui a finalement conduit au premier pulsar a commencé en 1948, lorsque j'ai rejoint la petite équipe de recherche de Martin Ryle, et que je me suis intéressé au problème général de la propagation du rayonnement à travers des milieux transparents irréguliers. Nous sommes tous familiers avec le scintillement des étoiles visibles, et ma tâche était de comprendre pourquoi les étoiles radio scintillent aussi. » J'ai eu la chance d'avoir pour maître le professeur Radcliffe, qui a été le premier à me montrer la puissance des techniques de Fourier pour traiter de tels phénomènes de diffraction. Par une modeste extension de la théorie existante, j'ai été capable de montrer que nos étoiles radio scintillaient à cause des nuages de plasma de l'ionosphère à des hauteurs d'environ 300 km. Et j'ai également pu mesurer la vitesse des vents ionosphériques dans cette région. Ma fascination pour l'utilisation de sources radio extraterrestres pour étudier le plasma intermédiaire m'a ensuite amené à la couronne solaire. À partir d'observations de la diffusion angulaire des radiations traversant la couronne, à l'aide de simples interféromètres radio, j'ai finalement pu tracer l'atmosphère solaire jusqu'à la moitié du rayon de l'orbite de la Terre. Dans mon carnet de notes de 1954, il y a un commentaire disant que si les sources radio étaient de taille angulaire suffisamment petite, elles illumineraient l'atmosphère solaire avec une cohérence suffisante pour produire des modèles d'interférences au niveau de la Terre, qui seraient détectables comme une fluctuation très rapide de l'intensité. Malheureusement, les informations disponibles à l'époque montraient que les quelques sources connues étaient plus de 100 fois trop grandes pour produire cet effet. Et je n'ai pas poursuivi cette idée. C'est triste, car le phénomène a été découvert par hasard, environ 8 ans plus tard, par Margaret Clark, alors que j'avais oublié mon commentaire. Elle était impliquée dans une étude des sources radio à Cambridge, et elle avait remarqué que 3 sources particulières présentaient des variations d'intensité. Elle a fait remarquer que 2 de ces sources étaient connues pour avoir des tailles angulaires inférieures à 2 pouces. Elle a ensuite estimé qu'un mécanisme de scintillation nécessitait des irrégularités du plasma à des distances de plusieurs milliers de kilomètres, mais elle a conclu que les fluctuations restaient un mystère non résolu. Au cours d'une discussion de groupe, je me suis soudain souvenu de ma conclusion précédente et j'ai réalisé que si les sources radio sous-tendaient un angle inférieur à 1 seconde, elles pourraient présenter la scintillation d'intensité prévue, causée par les nuages de plasma dans le milieu interplanétaire. Avec l'aide de Scott et Collins, des observations spéciales de 3C48 et d'autres sources radio quasi-stellaires furent donc réalisées et le phénomène de scintillation fut immédiatement confirmé. Puisque la scintillation interplanétaire, comme nous avons appelé ce nouvel effet, pouvait être détectée dans n'importe quelle direction de l'espace, je l'ai utilisée pour étudier le vent solaire, qui avait alors été découvert par des sondes spatiales lancées en orbite bien au-delà de la magnétosphère. Il était intéressant de suivre les modèles de diffraction interplanétaire alors qu'ils traversaient l'Angleterre à des vitesses supérieures à 300 km par seconde et d'échantillonner le comportement du vent solaire bien au-delà du plan de l'écliptique où les engins spatiaux ne se sont pas encore aventurés. Anthony Hewish s'arrêta quelques secondes pour décoller la feuille suivante de sa petite liasse. La technique de scintillation a également fourni un moyen extrêmement simple et utile de montrer quelles sources radio avaient des tailles angulaires dans la gamme de 0,1 à 1 seconde. La première source vraiment inhabituelle mise en évidence par cette méthode est apparue en 1965, quand, avec mon étudiant Okoy, j'ai étudié l'émission radio de la nébuleuse du Crabe. Nous avons trouvé une composante scintillante proéminente dans la nébuleuse, qui était bien trop petite pour être expliquée par le rayonnement synchrotron conventionnel, et nous avons suggéré que cela pouvait être les restes de l'étoile originale qui avait explosé, et qui montrait encore de l'activité sous forme d'émissions radio de type éruption. Cette source s'est avérée par la suite n'être autre que le célèbre pulsar de la nébuleuse du Crabe. En 1965, j'ai dessiné les plans d'un radiotélescope avec lequel je comptais réaliser une étude à grande échelle de plus de 1000 radiogalaxies en utilisant la scintillation interplanétaire pour obtenir une haute résolution angulaire. Pour atteindre la sensibilité requise, il était nécessaire de couvrir une surface de 18 000 m2, et parce que la scintillation due au plasma est plus prononcée aux grandes longueurs d'onde, j'ai utilisé une longueur d'onde de 3,7 mètres. La conception finale était un réseau contenant 2048 antennes dipôles. Cette année-là, une nouvelle étudiante diplômée m'a rejoint, Jocelyn Bell, qui est devenue responsable du réseau de câbles reliant les dipôles. L'ensemble du système a été construit grâce à des efforts locaux et nous avons compté sur l'aide volontaire de nombreux membres de l'équipe de Cambridge. Le radiotélescope était terminé et testé en juillet 1967 et nous avons immédiatement commencé à étudier le ciel. Notre méthode d'utilisation de la scintillation pour la mesure quantitative des tailles angulaires exigeait des observations répétées afin que chaque source puisse être étudiée à de nombreuses élongations solaires. En fait, nous avons sondé toute la gamme du ciel accessible à des intervalles d'une semaine. Pour maintenir une évaluation continue de l'étude, nous nous sommes arrangés pour reporter les positions des sources radio scintillantes sur une carte du ciel au fur et à mesure que chaque enregistrement était analysé, et d'ajouter des points lorsque les observations étaient répétées à des intervalles hebdomadaires. De cette façon, les sources authentiques pouvaient être distinguées des interférences électriques, car il est peu probable que ces dernières reviennent avec les mêmes coordonnées célestes. Anthony Hewish reprit son souffle un instant en levant les yeux vers l'auditoire, puis revint vers sa feuille. Il est tout à l'honneur de Jocelyn Bell d'avoir pu suivre le flux de papier provenant des quatre enregistreurs. Un jour, vers la mi-août 67, Jocelyn me montra un enregistrement indiquant des signaux fluctuants qui auraient pu être une faible source subissant une scintillation lorsqu'elle était observée dans la direction antisolaire. C'était inhabituel, car une forte scintillation se produit rarement dans cette direction, et nous avons d'abord pensé que les signaux pouvaient être des interférences électriques. Nous avons donc poursuivi l'étude de routine. À la fin du mois de septembre, la source avait été détectée à plusieurs reprises, bien qu'elle n'était pas toujours présente. Et je soupçonnais que nous avions localisé une étoile éruptive, peut-être similaire aux naines de type M étudiées par Lovell. Mais la source présentait également des décalages apparents de l'ascension droite allant jusqu'à 90 secondes, ce qui était une preuve contre une origine céleste. Nous avons installé un enregistreur à grande vitesse pour étudier la nature des signaux fluctuants, mais sans succès, car l'intensité de la source est passée en dessous de notre limite de détection. Au cours du mois d'octobre, cet enregistreur était nécessaire pour des observations prévues d'une autre source, 37273, pour vérifier certains aspects de la théorie de la scintillation. Et c'est le 28 novembre que nous avons obtenu la première preuve que notre mystérieuse source émettait des impulsions régulières de radiation à des intervalles légèrement supérieurs à une seconde. Je ne pouvais pas croire qu'une source naturelle puisse rayonner de cette manière, et j'ai immédiatement consulté des collègues astronomes dans d'autres observatoires pour savoir s'ils avaient des équipements en fonctionnement qui auraient pu générer des interférences électriques à un temps sidéral proche de 19h19. Au début du mois de décembre, la source a augmenté d'intensité et les impulsions étaient clairement visibles au-dessus du bruit. Le fait de savoir que les signaux étaient pulsés m'a permis de déterminer leur phase électrique et j'ai réanalysé les relevés de routine. Cela a montré que l'ascension droite était constante. Les variations apparentes avaient été causées par le changement d'intensité de la source. Toujours sceptique, j'ai mis au point un dispositif permettant d'afficher des repères temporels précis à des intervalles d'une seconde, diffusé par le service de l'heure de la MSF. Et le 11 décembre, j'ai commencé à effectuer des mesures quotidiennes. À mon grand étonnement, les lectures étaient extrêmement régulières à l'intérieur de la zone d'observation à l'incertitude observationnelle de 0,1 seconde près, ce qui montre que la source pulsée était à l'heure avec une précision supérieure à une partie par million. Pendant ce temps, mes collègues Pilkington, Scott et Collins ont découvert par des méthodes tout à fait indépendantes que le signal présentait une fréquence de balayage rapide d'environ 5 MHz par seconde. Ceci montrait que la durée de chaque impulsion à une fréquence radio particulière était d'environ 16 millisecondes. N'ayant trouvé aucune explication terrestre satisfaisante pour ces impulsions, nous avons commencé à croire qu'elles ne pouvaient être générées que par une source située bien au-delà du système solaire, et la courte durée de chaque impulsion a suggéré que le radiateur ne pouvait pas être plus grand qu'une petite planète. Nous devions envisager la possibilité que les signaux étaient en effet générés sur une planète tournant autour d'une étoile lointaine et qu'ils étaient artificiels. Je savais que les mesures de temps, si elles étaient poursuivies pendant quelques semaines, révéleraient tout mouvement orbital de la source, comme le décalage Doppler, et je me suis senti obligé de maintenir un rideau de silence jusqu'à ce que ce résultat soit connu avec une certaine certitude. Sans aucun doute, ces semaines de décembre 67 ont été les plus passionnantes de ma vie. Et il s'est avéré que le décalage Doppler était précisément celui dû au mouvement de la Terre seule, et nous avons commencé à chercher des explications impliquant des étoiles naines ou les hypothétiques étoiles à neutrons. Mes amis de la bibliothèque de l'Observatoire optique étaient surpris de voir un radioastronome s'intéresser de si près au livre sur l'évolution stellaire. J'ai finalement décidé que l'oscillation gravitationnelle d'une étoile entière fournissait un mécanisme possible pour expliquer l'émission périodique d'impulsions radio et que la fréquence fondamentale que l'on pouvait obtenir des étoiles naines blanches était trop basse. J'ai suggéré qu'un mode d'ordre supérieur dans le cas d'une naine blanche ou qu'une étoile à neutrons de la plus basse densité vibrant dans le mode fondamental pourrait donner la périodicité requise. Nous avons également estimé la distance de la source en supposant que le balayage de fréquence était causé par la dispersion des impulsions dans le plasma interstellaire et nous avons obtenu une valeur de 65 parsecs, une distance stellaire typique. Pendant que je préparais un compte-rendu cohérent de ces recherches plutôt mouvementées en janvier 68, Jocelyn Bell examinait tous les enregistrements de notre étude du ciel avec sa persistance et sa diligence habituelles, et elle a produit une liste de positions possibles de pulsars supplémentaires. Celles-ci ont été observées à nouveau pour trouver des preuves de rayonnement pulsé, et avant de soumettre notre article pour publication le 8 février, nous étions certains de l'existence de 3 pulsars supplémentaires, bien que leurs paramètres n'étaient alors que grossièrement connus. Je me souviens bien du matin lorsque Jocelyne est entrée dans mon bureau avec l'enregistrement d'un possible pulsar qu'elle avait fait la nuit précédente à une ascension droite de 9h50. Quand nous avons étalé la carte sur le sol et placé une règle d'un mètre contre elle, une périodicité de 0,25 secondes était tout juste perceptible. Ceci a été confirmé plus tard lorsque le récepteur a été ajusté à une largeur de bande plus étroite, et la rapidité de ce pulsar rendait les explications impliquant des étoiles naines blanches de plus en plus difficiles. Les mois qui ont suivi l'annonce de notre découverte ont été très chargés pour les observateurs et les théoriciens, alors que les radiotélescopes du monde entier se tournaient vers les premiers pulsars, et les informations ont afflué à un rythme phénoménal. C'est Gold qui a été le premier à suggérer que la rotation des étoiles à neutrons était le mécanisme le plus simple et le plus flexible pour expliquer l'horloge des pulsars, et avec la prédiction que la période d'impulsion devrait augmenter avec la durée de vie du pulsar. La découverte d'un pulsar dans la nébuleuse du crabe a confirmé cette hypothèse de manière spectaculaire. La détection d'une lumière pulsée provenant de l'étoile, qui avait été précédemment identifiée comme le vestige de l'explosion initiale, a constitué un autre soutien impressionnant à l'hypothèse de l'étoile à neutrons. Selon les théories de l'évolution stellaire, c'est précisément là qu'une jeune étoile à neutrons devrait être créée. Gold a également montré que la perte d'énergie rotationnelle, calculée à partir de l'augmentation de la période pour un modèle d'étoile à neutrons, était exactement celle nécessaire pour alimenter le rayonnement synchrotron observé dans la nébuleuse. Aujourd'hui, en 1974, avec plus de 130 pulsars répertoriés dans le ciel, il y a des preuves très fortes que le modèle du phare de l'étoile à neutrons est correct. Aucune autre étoile ne pourrait tourner assez vite sans se fragmenter pour expliquer les pulsars les plus rapides. Pourtant, des périodes allant de 33 millisecondes à 3,5 secondes sont facilement prises en compte par la théorie de la rotation. En même temps, il n'y a malheureusement aucune théorie satisfaisante pour expliquer l'émission radio générée par ces minuscules étoiles qui ont un rayon de seulement 10 km. La prédiction selon laquelle de la matière à la densité presque inimaginable de 10 puissance 18 kg par mètre cube pourrait se former par compression gravitationnelle à l'intérieur des étoiles a été faite par Baade et Zwicky en 1934, peu après la découverte du neutron par Chadwick. À cette densité, seule une petite fraction des protons et des électrons d'origine pourrait exister, et la matière serait principalement constituée de neutrons. C'est la pression quantique provenant des neutrons qui obéissent aux statistiques de Fermi qui équilibre la compression gravitationnelle supplémentaire. Puis finalement, l'énergie de Fermi peut devenir relativiste et conduire à un nouvel effondrement gravitationnel. Étant donné que les noyaux complexes sont générés par la fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles chaudes, où il y a une grande pression thermique, l'état dégénéré ne peut être trouvé que lorsque la fusion cesse et que nous avons affaire aux cendres refroidies de l'évolution stellaire. Les étoiles qui donnent naissance aux étoiles à neutrons sont plus massives que le Soleil, et l'on pense que la formation des étoiles à neutrons est associée aux explosions de supernovas. Depuis la découverte des pulsars, les physiciens de l'état solide du monde entier se sont montrés très actifs, car la matière à neutrons à n'importe quelle température inférieure à environ 1 milliard de Kelvin se comporte plutôt comme la matière ordinaire qui aurait une température proche du zéro absolu. Le modèle généralement admis d'une étoile à neutrons consiste en des coquilles concentriques ayant des propriétés physiques très différentes, comme l'explique Ruderman. À la surface de l'étoile, il est probable qu'il existe une coquille de fer, puisque le fer 56 est le noyau le plus stable. Les atomes seraient normaux si aucun champ magnétique n'était présent. En astrophysique, il est peu judicieux d'ignorer les phénomènes magnétiques. Et l'effondrement gravitationnel, qui suit l'explosion d'une supernova, comprime probablement le flux magnétique stellaire originel pour produire des champs de surface de 10 puissance 8 Tesla ou plus. Dans des champs de cette ampleur, le rayon de giration des électrons dans les niveaux d'énergie atomique devient plus petit que le rayon de Bohr et les fonctions d'ondes électroniques adoptent une forme cylindrique. Il est beaucoup plus difficile d'ioniser des atomes déformés de ce type, ce qui est important lorsqu'on envisage la génération d'une magnétosphère autour de l'étoile à neutrons. Sous la peau de fer, la compression croissante force les électrons à atteindre des niveaux d'énergie plus élevés jusqu'à ce qu'ils soient entièrement libérés des noyaux positifs. Les noyaux non blindés s'installe alors dans un réseau rigide ayant une température de fusion d'environ 1 milliard de Kelvin. À de plus grandes profondeurs, les énergies des électrons deviennent relativistes et ils commencent à se combiner avec les protons des noyaux, augmentant ainsi la population de neutrons. C'est le processus de désintégration bêta inverse. À une profondeur suffisante, presque tous les électrons et les protons ont disparu et les noyaux ont été convertis en une mer de neutrons. La lacune énergétique pour l'appariement des neutrons est de l'ordre de plusieurs MeV, ce qui correspond à une température de transition superfluide de 1 à 10 milliards de Kelvin. Et comme les jeunes étoiles à neutrons se refroidissent rapidement à des températures inférieures à 1 milliard de Kelvin, la mer de neutrons devrait se comporter comme un superfluide quantique. Les quelques protons restants s'appariront de la même manière et entreront dans un état supraconducteur, tandis que les électrons résiduels se comporteront normalement. Le mouvement global du superfluide de neutrons doit être irrotationnel, mais une rotation effective du corps solide peut être simulée à l'aide d'un système de rotation avec une distribution de lignes de vortex quantifiées contenant une petite fraction de fluide neutronique. Anthony Hewish continuait à lire ses feuilles calmement sans lever les yeux vers l'auditoire qui siégeait confortablement sous la haute coupole dorée. Martin Ryle semblait s'assoupir légèrement sur son siège en velours, alors que ça allait bientôt être son tour. À des niveaux encore plus profonds, l'interaction neutron-neutron peut aboutir à la création d'un réseau de neutrons solides, bien que cette possibilité soit débattue. Des preuves que les étoiles à neutrons ont effectivement une structure similaire au modèle prédit ont été obtenues à partir d'observations de pulsars sur de longues durées. Celles-ci montrent que l'augmentation systématique de la période, correspondant à une perte régulière d'énergie de rotation de l'étoile en rotation, est parfois interrompue par des changements discontinus. On observe que la plupart des pulsars ralentissent sur une échelle de temps typique de 1 million à 10 millions d'années, bien que les pulsars les plus rapides, dans les supernovae du Crabbe et de Vela, ont des échelles de temps de seulement 1000 à 10 000 ans respectivement. Les discontinuités présentent souvent une diminution abrupte de la période, suivi d'un retour à une valeur légèrement réduite avec un temps de relaxation caractéristique. Pour le pulsar du crabe, cet effet peut être expliqué par un modèle de croûte rigide et de noyau liquide. Les jeunes étoiles à neutrons sont susceptibles de tourner rapidement à la naissance, avec des vitesses angulaires pouvant atteindre 10 000 radians par seconde, et elles auront donc une forme sphéroïdale. Lorsqu'une étoile ralentit, elle a tendance à devenir moins sphéroïdale et la croûte rigide se fracturera à intervalles irréguliers car l'augmentation de la contrainte l'emporte sur la rigidité. Lorsque cela se produit, la croûte tourne momentanément plus rapidement, mais plus tard, l'augmentation du moment angulaire sera couplée dans le fluide où se trouve la majeure partie de la masse. La constante de temps observée pour le couplage est en bon accord avec le modèle superfluide et serait bien plus petite dans le cas d'un intérieur fluide normal. Il est remarquable qu'une croûte de seulement 10 micromètres est suffisante pour expliquer les anomalies de période du pulsar du crabe. Lorsque l'on applique un raisonnement similaire au pulsar de Vela, on constate que les anomalies sont plus importantes. Il s'avère alors nécessaire d'invoquer un noyau solide à réseau de neutrons dans lequel les contraintes imposées lorsque l'étoile était jeune sont relâchées par intermittence. On entendit soudain une porte claquer au loin, qui résonnait jusque dans la grande salle. Hewish s'arrêta, leva la tête, puis se replongea dans son texte sur un ton monocorde. Il est étrange que l'on semble mieux comprendre l'intérieur des étoiles à neutrons que leur atmosphère dans lesquelles est généré le rayonnement qui les rend détectables. Ginzburg et Zelenyakov ont résumé en détail les problèmes électrodynamiques qui apparaissent. Le modèle sur lequel les théoriciens se concentrent le plus est le modèle d'un rotateur magnétique oblique, dans lequel le pulsar peut être considéré comme une dynamo, alimentée par l'accumulation initiale d'énergie cinétique rotationnelle, et la convertissant en radiation en même temps qu'un flux de particules relativistes au moyen d'un grand champ magnétique. Le modèle du rotateur oblique a été envisagé pour la première fois par Pacini avant la découverte des pulsars, et c'est Gold qui a suggéré qu'une magnétosphère corotative étendue jouait un rôle vital. Goldreich et Julian ont ensuite montré que les forces électriques résultant de l'induction unipolaire seraient suffisantes pour entraîner les charges de la surface stellaire et les distribuer ensuite dans une magnétosphère corotative. On ne sait pas encore si une telle distribution est stable et si le plasma se distingue des plasmas de laboratoire dans la mesure où la séparation des charges est presque totale. Les forces inertielles doivent dominer lorsque la vitesse de corrotation s'approche de C, et au-delà de la vitesse du cylindre de lumière, le plasma se détache pour créer un vent stellaire. Dans de tels modèles, on pense que les régions polaires jouent un rôle crucial puisque les particules peuvent s'échapper le long des lignes de champ ouvertes. Dans un tel cadre global, il existe un mouvement ordonné des charges qui génère les ondes radio que nous observons, ainsi que les régions qui émettent de la lumière et des rayons X pour le plus jeune pulsar du crabe. La richesse fascinante des phénomènes de polarisation, de forme d'impulsion, les spectres radio, les variations d'intensité et les périodicités secondaires complexes peuvent finalement fournir des preuves essentielles pour résoudre nos incertitudes actuelles. Mais il y a de bonnes raisons de croire que le schéma général est correct. Ewish arrivait à sa conclusion. En décrivant la physique des étoiles à neutrons et la chance que j'ai eue de tomber sur elles, j'espère avoir donné une idée de l'intérêt et des récompenses qui existent à l'extension de la physique au-delà des limites des laboratoires. C'est une belle époque pour être astrophysicien. Et je suis également profondément conscient de ma dette envers tous mes collègues du laboratoire de Cavendish. Tout d'abord à Sir Martin Ryle pour son flair unique qui lui a permis de créer une équipe aussi sympathique et stimulante au sein de laquelle travailler. Il leva les yeux vers son collègue qui trônait face à lui et qui s'était bien réveillé. Deuxièmement, à Jocelyn Bell pour le soin, la diligence et la persistance qui ont conduit à notre découverte si tôt dans le programme du radiotélescope à scintillation interplanétaire. Et enfin, à mes amis qui ont contribué si généreusement à de nombreux aspects du travail. Anthony Ewish s'inclina lentement en direction des académiciens en faisant flotter son queue de pie, puis alla s'asseoir sur le fauteuil moelleux qui lui était réservé à côté de son mentor.